Bonjour tout le monde, un spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 26 mars 2014. Christophe Rolin au micro, Gérald est également là, Yann ainsi que Benjamin sont même présents pour parler du spectacle de la pièce Le Marchand de Venise qui est mise en scène ces jours-ci au Théâtre des Clochards Célestes. Il y a déjà eu une première série de représentations la semaine dernière. Je me trompe, c'est pas du tout les Clochards Célestes. Il y a 2 ans, j'avais discuté avec Yann Ducruet pour le théâtre des Clochards Célestes. Je me trompe totalement, Benjamin me fait signe, il a tout à fait raison. C'est à l'Élysée, une scène dont nous parlons vraiment très peu souvent. Gérald et moi, on l'avait déjà évoqué, il me semble, une fois, sur la rue Basse-Combalot. C'est une rue dans le 7e arrondissement. Benjamin et Yann, qui sont présents, en diront davantage de choses. Je ne connais même pas cette scène, je le confesse. Donc ils sont là pour nous parler de cette pièce qui a commencé la semaine dernière, qui a connu une pause la fin de semaine. Et puis là, ça a repris hier jusqu'à ce samedi 29 mars. Ils sont là donc pour en parler jusqu'à 15h dans l'émission spectaculaire sur les ondes de Radio Canu 102.2 de la bande FM à Lyon ou alors radiocanu.org, tout accroché si vous nous écoutez sur internet. Il y a des places à gagner pour la Biennale Musique en Scène qui se termine ce samedi 29 mars. Et d'ailleurs, les places sont pour cette journée spectaculaire, journée Cumulus plutôt, c'est le nom qu'elle porte. Les places à gagner, les renseignements sont donnés sur le blog. Il s'agit de répondre à 2 questions. La première, c'est quel était l'invité de la semaine dernière dans l'émission du mercredi 19 mars. Et l'autre question, c'est quelle était la personne, la personnalité, la figure mise enfin, dans le spectacle, dans l'opéra donné il y a de cela 15 jours au théâtre de la Renaissance à Oullins. La personne dans l'opéra Steve Five. Oups, Gérald de Sassom. Dans l'opéra Steve Five. Qui était-ce, ce Steve? Voilà, nous commençons en musique avec du Shakespeare et nous continuons avec nos 2 invités et Gérald qui posera des questions et tout est très bien. Ouf, on va respirer et on va poursuivre. Jusqu'à 15h, après ce sera le plus des canuts.
Lost.
Nous n'enchaînons pas. Cette fois-ci, Gérald, qu'est-ce que nous avons écouté à l'instant ? Salut Gérald.
Ça va ?
Ouais, très bien, très bien.
On ne dit jamais bonjour ni au revoir dans ce studio, c'est quand même étrange.
On manque de courtoisie, de politesse.
Ouais.
Je t'en prie, qu'écoutions-nous ?
Alors, nous écoutions deux courts morceaux extraits d'un album des Shakespeare Songs. Excusez-moi pour mon accent anglais qui est très mauvais. Par le Deller Consort d'Esmond Dupré au luth et sous la direction d'Alfred Deller. Le premier morceau, très court, hein, était de Robert Johnson, 1583-1633, Where the Bee Sucks, extrait de La Tempête, d'une minute vingt. Et le deuxième qu'on a écouté était anonyme, How Shall I Your True Love Now, tiré de Hamlet, de 1 minute 49. Puisque, à cette époque, donc, les pièces Shakespeare indiquent rarement les instruments en dehors des trompettes et des tambours habituels aux scènes martiales. L'accompagnement musical courant pour les circonstances normales était le broken consort composé de dessus et de basses de viol, d'une flûte alto, d'un luth, d'une cithare et d'une pandore. Ces deux derniers instruments à cordes métalliques pincées avec un plectre remplissaient le même rôle que de nos jours les guitares rythmiques et les guitares basses. Quant au luth, il est fréquemment indiqué comme instrument d'accompagnement soliste. Voilà, donc Shakespeare devait se plier aux considérations pratiques. Etc, etc. Donc les spectacles étaient musicaux.
Resituons les choses. Nous sommes dans l'émission spectaculaire sur Radio Canu et nous recevons Yann ainsi que Benjamin qui vont se présenter dans quelques instants. Ils sont à l'affiche au théâtre L'Élysée pour le spectacle, pour la pièce Le Marchand de Venise de Shakespeare. Je ne pense pas que je l'avais dit en présentation d'émission. Et donc Gérald s'était dit de manière très pertinente qu'il pouvait être intéressant d'entendre la musique qui se faisait à l'époque. Yann d'ailleurs est très au courant, je crois, de comment se montaient les pièces à l'époque. Je vous en prie, vous pouvez vous parler, si vous souhaitez, des spectacles à l'époque de Shakespeare, ou même plus précisément, vous pouvez vous présenter ce monstrueux théâtre de BAM, et puis Benjamin Villemagne aura la parole ensuite également. Yann Ducruet, vous êtes à la fois metteur en scène pour cette pièce Marchand de Venise, et également à la tête de monstrueux théâtre de BAM, et puis donc, question Gérald, tu disais, d'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? On parlera ensuite de Shakespeare avec comment marchaient les spectacles à l'époque. Je vous en prie, Yann, ouvrez donc le...
Eh ben, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs de Radio Canu, voilà, c'est Yann Ducruet qui est en train de vous parler. On m'avait lancé sur plein de choses différentes. Alors déjà, je vais essayer de me présenter rapidement.
Oui,
je
sais pas si c'est la principale. Voilà. Si.
Alors voilà, je m'appelle Yann Ducruet. Je suis né en Haute-Savoie. Il y a de cela un peu plus de 34 ans maintenant. Je suis venu faire des études à Lyon, des études en art du spectacle. Et c'est à l'université que j'ai fait mes premières armes théâtrale, ça a commencé à devenir de plus en plus sérieux. J'étais dans des compagnies étudiantes, on tournait, puis j'ai monté ma compagnie, le monstrueux théâtre BAM, il y a de cela maintenant bientôt 14 ans. Et au début, ce qui était une compagnie étudiante, bah, au fur et à mesure des projets, on avait fait un feuilleton théâtral qui avait en quelque sorte, je sais pas, défrayé la chronique, qui était pas mal suivi, on va dire, par la presse et par un public aussi, qui venait nombreux. Donc à la fois, c'est vraiment ce projet qui a fait la transition entre l'université et puis la ville de Lyon. On a commencé à jouer dans des lieux alternatifs sur Lyon, avec ce feuilleton théâtral qui était un rendez-vous. Voilà, le public venait nombreux. Et puis ensuite, voilà, moi j'ai décidé de me professionnaliser dans le spectacle. Du coup, j'écris, je mets en scène des spectacles. Et je joue aussi pour d'autres compagnies, je donne des cours de théâtre, voilà en gros mes activités. J'adore raconter des histoires, les raconter avec des comédiens, j'adore la rencontre qu'est le spectacle, la rencontre entre des spectateurs et un groupe de comédiens, de techniciens, d'artistes qui ont préparé quelque chose de leur côté. Voilà, c'est ma vie.
Vous dites « on » parce que cette compagnie, le monstrueux théâtre BAM, j'ai dit tout à l'heure « de BAM », non, c'est le monstrueux théâtre BAM, d'ailleurs vous nous indiquerez peut-être d'où le nom vient. Vous disiez donc plusieurs fois « on », est-ce que Charlotte Michelin, Bernadette Favier, ainsi que Benjamin Villemagne qui est présent, est-ce que c'est la même équipe depuis donc ces 14 années, depuis les tout débuts, ou l'équipe a évolué un petit peu ?
Eh ben, oui et non.
En fait,
si vous voulez, on n'est pas dans... Aujourd'hui, c'est assez... Enfin, c'est vrai que pour beaucoup de gens, quand on parle de théâtre ou d'une compagnie de théâtre, c'est pas forcément très clair. Une compagnie de théâtre... On n'est pas une troupe, on vit pas dans une roulotte et on fait pas tout ensemble tout le temps. On est souvent on porte plusieurs casquettes, c'est un métier où il y a beaucoup de précarité, du coup on est obligé de porter plusieurs casquettes, comme je disais, je suis comédien, je suis metteur en scène,
intermittent
du spectacle, voilà, je compose la musique du spectacle, j'ai réalisé les vidéos, on fait beaucoup de choses, et de la même manière je vais être amené à travailler avec certaines personnes en tant que comédien, donc je vais participer à des projets d'une autre compagnie, mais ça veut pas dire que je vais être sur tous les projets de cette compagnie. De la même manière, quand je monte des spectacles, ce n'est pas systématiquement les mêmes personnes qui travaillent avec moi, c'est-à-dire la compagnie, en fait, c'est juste... les projets de la compagnie désignent juste les projets que je mets en scène, en définitive. Du coup, je mets en scène des projets. Après, bah, pour moi, j'aime bien considérer quand même le Monstre et Théâtre BAM comme une sorte de famille, avec voilà, Benjamin qui est là. Je travaille avec lui depuis le tout premier spectacle de la compagnie. Du coup, on peut dire que ça fait bientôt 15 ans qu'on bosse ensemble, qu'on fait des spectacles ensemble. Il n'est pas sur tous les spectacles que je crée, mais il a été sur de nombreux spectacles. Il en est de même pour Charlotte Michelin, dont vous parliez, depuis quelques années. Donc c'est un peu plus récent, mais depuis, je sais pas, depuis 4-5 ans, on monte des spectacles ensemble. Vous parliez de Bernadette Favier. Du coup, Bernadette Favier, c'est drôle parce que c'est la...
Je vois son nom pour les costumes, j'ai la distribution sous les yeux.
Voilà, c'est une dame, une couturière, mais qui travaille avec nous bénévolement de temps en temps, qui nous donne un coup de main pour faire des costumes. Elle nous avait déjà aidé il y a 10 ans. La fois précédente, c'était vraiment il y a 10 ans. Elle avait réalisé quelques costumes. Et puis là, on a réuni toute une équipe... dont elle faisait partie, c'est en fait la maman d'un ami à la base, et puis elle est devenue elle-même une pote, voilà, Bernadette, si tu nous écoutes, Bernie, on t'embrasse très fort.
Je lui ai rendu.
Voilà, parce qu'elle a été, ouais, en plus, voilà, vous avez pointé cette personne. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. On est un peu une famille, mais on n'est pas forcément tout le temps les mêmes sur tous les projets, ça dépend du projet, quoi. Il y a des projets où on est 5, il y a des projets où on est 2, voilà.
Non, c'est très bien, peut-être de cette idée de démonter les clichés, je ne sais pas si ça pourrait venir de là, mais Rémi sans famille, voilà, peut-être cette idée, les comédiens, ou alors c'est également un roman de Théophile Gauthier, j'ai perdu son nom, le Capitaine Fracasse, voilà, c'est ça, où je crois, c'est pour le coup vraiment une roulotte avec...
Moi je pensais à Ariane Mouchkine, au film sur Molière, magnifique.
Eh ben voilà, chacun, nous avons tout un tas de références. Benjamin Villemagne, pourriez-vous décliner votre identité, enfin je vous en prie, dire quelques mots, vraiment, la question est très ouverte, c'est vous qui êtes derrière le micro à l'heure de 14h15 sur l'antenne de Radio Canu, vous qui êtes derrière le micro, qui êtes-vous? Alors on pourrait vous décrire le cheveu court, l'œil bleu, un sweat, je sais pas comment nommer, une veste de... Bref, ce n'est pas ça.
C'est côté Paul Newman, refait dans un œil d'or.
Comme nous sommes à la radio.
Vous pouvez pas lui faire plus plaisir que ça.
Oui, non, exactement, nous sommes à la radio. Comme
petit côté entre Louis de Funès et Paul Newman.
Bonjour à vous, ici voilà. C'est Paul Newman, Paul Funès au microphone. Donc je suis Benjamin. Et je suis ici parce que je suis comédien, donc, et comme le disait Yann, comédien depuis bien longtemps avec Yann, on a fait pas mal de spectacles ensemble. Je suis aussi metteur en scène, donc moi je monte aussi des spectacles pour ma compagnie, qui est une compagnie plutôt à Saint-Étienne. Je fais des spectacles qui sont tout à fait différents de ceux de Yann, on a deux univers artistiques différents, on arrive à se croiser sur certains projets, et c'est ça qui est intéressant. On s'est rencontrés avec Yann à la fac. Ensuite, moi, j'ai fait différentes écoles à Saint-Étienne et puis à Lyon. Et je travaille dans différentes compagnies en tant que comédien. Et puis, voilà, comme je disais, j'ai ma compagnie pour défendre mes spectacles aussi.
Qui s'appelle à Saint-Étienne ?
La Quincaillerie Moderne.
C'est connu, hein ?
Voilà.
J'en ai déjà entendu parler à Saint-Étienne. Il y a longtemps ?
C'est une compagnie qui a 6 ou 7 ans maintenant. Mmh. Voilà.
Et oui, Gérald
a des... dynamique au niveau théâtre aussi, Saint-Étienne, et historique.
Stéphane, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Non, c'est une super ville pour le théâtre aussi. Oui. Voilà.
Vous parliez de vos plusieurs casquettes tout à l'heure, il y a quelques instants, Yann, notamment, Gérald le soulignait tout à l'heure, le site MTBAM.
Voilà, alors www.mtbam.com, c'est oui le site internet qui présente les projets de la compagnie. Oui.
Qui en est le designer, le webmestre? Enfin, je ne sais pas comment.
C'est moi qui. C'est oui, voilà. je l'ai réalisé. Bah écoutez, j'ai envie que les choses se fassent et du coup je m'intéresse pour diverses choses et du coup j'ai vraiment envie que ma compagnie puisse présenter ses projets clairement. Je suis suffisamment Verser dans, les outils informatiques qui permettent de réaliser un site internet,
faire une belle com, quoi.
Voilà, et du coup, bah, n'ayant pas les moyens tout le temps de financer quelqu'un, de pouvoir payer quelqu'un, et j'aspire à ça, j'aspire pas à tout faire, honnêtement, j'aspire vraiment à être en capacité de pouvoir financer quelqu'un, enfin, payer quelqu'un qui pourrait réaliser le site, mais en attendant, bah, j'en ai pas les moyens, je concentre mes moyens sur l'équipe artistique, et puis c'est déjà pas simple et pas toujours gagné. Du coup, bah, le reste, bah, je le fais. Voilà, je me débrouille, j'acquiers les compétences, je mets 10 fois plus longtemps qu'un professionnel, mais voilà, je le fais.
Pour les auditeurs qui se rendraient sur le site, donc il y a une playlist qui est intéressante.
Ah, c'est agréable.
Il y a tous les spectacles. Et puis les photos, des belles photos qui sont faites par.
Eh ben, ça va dépendre. Il y a beaucoup de photos qui ont été réalisées par Maxime Rizard sur des spectacles précédents. Et là, sur le Marchand de Venise, oui, il y a de très belles photos qui ont été réalisées par une jeune photographe très talentueuse qui s'appelle Julie Cherki. Voilà. Voilà.
La quincaillerie moderne, Benjamin, un site également pour comme ça.
Oui, tout à fait. Après, on n'est pas là pour parler de ma compagnie, mais plutôt du travail de Yann. Nous, il y a
Un premier temps, si les invités parlent de après.
D'accord. Alors, il y a un site internet qui s'appelle quincailleriemoderne.fr, www.quincailleriemoderne.fr.
Ouais. En êtes-vous également on peut le mettre comme ça, le webmestre, ça.
Et non, pas du tout. Il s'avère que par le plus grand des hasards, c'est Yann Ducruet qui est aussi. Donc,
je rends service à mes camarades.
Sur beaucoup de casquettes.
Voilà,
exactement.
Moi, c'est une. Enfin, je ne sais même pas si ça peut être une question, c'est une réflexion où vous avez évoqué des années. Très bien, mais je suis friand également de lieux. C'est parfait. Benjamin, vous parliez de Saint-Étienne. Vous, donc, Yann, davantage de Lyon. Est-ce qu'il y a un ancrage géographique? Vous êtes originaire de Haute-Savoie. Est-ce que vos spectacles, que ce soit Le Marchand de Venise ou bien Néphélocéphalie, un spectacle précédent, ou alors d'autres spectacles, est-ce qu'ils voyagent pour aller un peu plus loin dans la région, ou alors ou vont-ils même plus loin, à l'international? Benjamin, la question s'adresse à vous également, parce qu'on va évoquer certes Le Marchand de Venise dans quelques instants, mais là, pour l'instant, parlons plutôt bien des personnes que vous êtes. Voyagez-vous? Est-ce que vous-même, Yann, vous rendez à Saint-Étienne? Oui, je suppose, c'est pas trop loin, ça peut aller.
Oui, j'ai déjà visité Saint-Étienne. Non, mais oui, il m'arrive de travailler à Saint-Étienne, que ce soit en tant que comédien ou en tant que metteur en scène, parce que bah, j'aspire à faire connaître mon travail ailleurs qu'à Lyon aussi. Lyon, je sais pas, par exemple, bah, vous parliez de Néphélocéphalie, qui est un spectacle qui, non seulement a le nom dur à prononcer, mais qu'on avait créé il y a 2 ans, je crois, au Clochard Céleste, on l'avait donné. Ensuite, on l'a joué, par exemple, je sais pas, à Bourg-en-Bresse, on l'a joué un peu dans la région, à l'Arbrel, par exemple, voilà. On est quand même pas mal, pour ce qui concerne les activités de ma compagnie, on est quand même pas mal centré sur Lyon et ses environs. On est dans une activité plus locale que, bah, par exemple, la compagnie Benjamin, qui, elle, a un rayonnement déjà plus national. Voilà, on a participé au Festival des Bravos de la Nuit avec Le Point Nemo, qui est un des spectacles de ces dernières années. Voilà, on aspire à se faire connaître un peu partout. Là, Le Marchand de Venise, on l'a joué pendant 5 semaines. Je vous dis, là, comme ça me vient, j'ai pas une liste près des endroits où on a joué dans beaucoup d'endroits différents, notamment quand je vous parlais du feuilleton théâtral, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup tourné dans la région, dans des petits festivals complètement fous, et voilà. Donc je vous disais, Le Marchand de Venise, on l'a créé en fait, on l'a créé à Vienne, dans un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre Saint-Martin, on l'a joué là-bas pendant 5 semaines, on a déjà là-bas donné 63 représentations devant un peu plus de 3500 spectateurs. Du coup, on arrive à Lyon et voilà, et j'espère bien, c'est quand même les premiers mois, les premières semaines de ce spectacle, du coup j'aspire évidemment à le vendre et à le diffuser pour la saison prochaine. Pour l'instant, vous savez, les théâtres sont en pleine programmation, ils attendent aussi un peu les résultats des élections municipales. Qu'est-ce que ça va donner, cette histoire de la fin du Conseil Général, tout ça? Donc il y a beaucoup de lieux qui sont en attente, et les compagnies aussi. Voilà.
Et inquiète.
Inquiète, non, parce que qu'est-ce que vous voulez?
Et vous, Benjamin, rayonnement national, oui? Vous allez en Bretagne ou je ne sais
même
pas.
Même à l'international, non?
On est allé en Bretagne, vous tombez juste, on allait jouer plusieurs fois autour de Saint-Brieuc, à Saint-Nazaire également.
Saint-Brieuc.
C'est pas tout à fait la Bretagne. On est allé jouer à Lille, on est allé jouer en Belgique, dans quelques endroits, à Paris également. Voilà.
Bientôt au Canada.
Et peut-être à Montréal cet été, donc pour une série de représentations.
Ouais, voilà. dans le cadre cadre de Juste pour rire, c'est ça ou c'est le... Non, non. Ça, c'est le festival.
Oui, parce qu'il a un one man show.
Ah ouais, d'accord.
Sa ressemblance avec Paul Newman, voilà, pour faire des imitations de Jacques Villeray. Enfin, c'est tout un truc.
Oui, c'est un peu complexe.
C'est tout simplement délicieux.
Si vous êtes là, je vais faire une petite imitation.
Ah ouais, chouette.
Il fait très bien le dauphin.
Je vais peut-être risquer cela et puis on en restera peut-être là. Il me semble, auriez-vous un petit accent peut-être, Benjamin? Non? Est-ce que c'est léger?
Oui, je crois que j'ai un accent stéphanois que j'essaie de pas trop cultiver, mais bon.
Ah, c'est stéphanois.
Voilà. Bah, je viens de Saint-Étienne, hein, je viens pas d'ailleurs. Donc,
je trouve que ça fait pas stéphanois, moi.
C'est peut-être plus l'accent ricamandois qui est moins connu.
Ah, ouais, d'accord. Ah,
mais il a beaucoup.
Avec Saint-Chamond, Saint-Étienne, Roche-la-Molière, la Ricamarie, ce n'est pas le même accent. Il y a des subtilités, des nuances très précises.
Je disais tout à l'heure que Benjamin, j'ai rencontré il y a de nombreuses années, il y a 14 ans, et effectivement, au début, son accent était très présent, et maintenant, ça s'est quand même pas mal atténué.
Ça s'est quand même atténué. Et on n'a pas eu droit à une chronique sur un bouquin.
Le parler, mais c'était plutôt Givor. Le parler ligérien.
Très bien.
Ah, oui. Non, Rive de Gier, pardon.
Pas
confondre les deux non plus.
On n'est pas dans le gaga stéphanois. Quoi.
Ouais.
Bon, nous l'avons plusieurs fois évoqué, nous avons donné ce titre, ce nom, Le Marchand de Venise. C'est la pièce actuellement à l'affiche du théâtre L'Élysée. Nous allons en parler après une courte introduction. Gérald, qu'est-ce que nous allons écouter puisque c'est le Marchand de Venise?
J'ai dégoté dans ma discothèque Concerto Veneziano. On avait le choix entre Monteverdi, Vivaldi, l'inévitable, comme diraient les autres, ou l'incontournable Vivaldi. Eh ben, on va faire un peu preuve d'originalité parce que ça va être Scarlatti en fait. Donc c'est une compilation Concerto Vénitien, Vivaldi, Albinoni, Torelli, Manfredini, Marcello, Scarlatti, Corelli. Scarlatti a composé quand même 600 sonates. Bon, c'est un très grand musicien.
Et
on écoute, donc 1685-1757, on écoute une petite sonate A dur L391, jouée par Dubravka Tomsic de 2 minutes 48, avant qu'on présente peut-être l'histoire du Marchand de Venise et qu'on raconte l'histoire avant d'enchaîner sur les questions.
Oh yeah.
Thank you.
c'est Gérald qui a la parole pour...
Oui, je suis désolé, j'ai fait une erreur de programmation, j'ai annoncé Scarlatti et le CD
c'était
en promotion
pas du tout Scarlatti.
Avec une feuille lamentable et mal faite.
Les auditeurs ont reconnu tout de suite.
Auront reconnu, bien sûr, Benedetto Marcello, 1686-1739, un concerto pour hautbois. On a écouté le bois et violon en démol, desserré, andante, on écoutait l'andante, 3031.
Et alors pourquoi avons-nous écouté cette piste? Et voilà, je
parce
t'en
que
prie.
Nous recevrons donc Yann Ducruet et Benjamin Villemain qui présentent actuellement au Théâtre de l'Élysée Le Marchand de Venise de William Shakespeare. Le Marchand de Venise, en quelques lignes, je vais simplement vous lire le dossier de presse rapidement, le résumé de l'histoire, et puis nos invités interviendront. Donc, depuis quelques dizaines d'années à Venise, une communauté s'affranchit de la morale locale en pratiquant une activité polémique, le prêt à intérêt. On les appelle les banquiers. Bien que totalement légal, la plupart des Vénitiens considèrent l'usure comme immorale et néfaste et ne cachent pas leur mépris pour ces banquiers qui s'enrichissent sur le dos des personnes dans le besoin. Bassanio, jeune Vénitien, désire demander la main de Portia, belle princesse d'une terre éloignée, Belmont. Il lui faut de l'argent, et vite. Il se tourne donc vers son ami Antonio, un richissime marchand. Ce dernier est contraint d'emprunter la somme car tous ses vaisseaux sont en mer. Or, le seul à pouvoir débourser rapidement l'argent désiré est le pire ennemi des marchands. Quelles seront les conditions de Shylock, le plus malfamé des banquiers de Venise? C'est le début d'une aventure riche en humour, où l'amour et l'amitié se confrontent à la haine et à la fatalité.
C'était Yann, hein, je suppose, à la rédaction de ce petit texte.
Oui, bah oui, c'est un petit résumé, oui, pour présenter le spectacle sur le dossier de presse. Ouais, c'est ça.
Donc un spectacle, véritable monument littéraire Shakespeare, monument littéraire de la civilisation occidentale, son œuvre poétique et théâtrale réussit la prouesse remarquable de dépeindre avec acuité la complexité de la nature humaine, tout en ayant le souci permanent de sublimer l'univers par le divertissement.
Maintenant, nous, Gérald, on s'arrête de parler. Nous laissons la parole à Yann Ducruet, metteur en scène et puis auteur de l'adaptation, puisque, attention, c'est une adaptation du Marchand de Venise. Ouf, hein, parce que justement, ça pourrait durer sinon 4-5 heures, alors que là, c'est limité à un peu plus d'une heure. Et nous laissons également la parole à Benjamin Villemagne, acteur. Donc, il va pouvoir nous parler de Yann Ducruet en tant que metteur en scène et nous dire qu'il a beaucoup souffert sous sa direction. C'est trop compliqué, il demande trop de choses, une exigence démesurée. Je vous en prie. D'abord, Yann, oui, donc, pour nous présenter ce spectacle, vous dites ce que vous souhaitez. Benjamin, on essaiera de retenir Yann et Benjamin pour également dire ce qu'ils souhaitent.
Oui, parce que enfin, nous sommes, attention, on n'est pas tout à fait là pour régler nos comptes avec Benjamin, mais on peut essayer peut-être de vous raconter. Eh ben, je sais pas, en fait, déjà, je crois que le plus important pour les gens qui nous écoutent, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce spectacle Marchand de Venise, je crois que la meilleure démarche à avoir, c'est de venir, mais dès ce soir à 19h30 au Théâtre de l'Élysée, et ce jusqu'à samedi. Bon, pardon, c'est un peu lourd. Oui, vous venez de lire le résumé de l'histoire. Alors, en fait, oui, j'ai réalisé une adaptation, c'est-à-dire j'ai resserré autour des trois intrigues principales du texte. Alors après, parler de l'adaptation comme ça, je sais pas, j'ai pas l'impression, je suis pas sûr de m'adresser à des gens qui ont Le Marchand de Venise.
Je vous lance là-dessus, mais critères, vraiment, en fait, la parole est libre. Vous présentez comme vous le souhaitez cette pièce. C'est vous l'auteur de ce.
Très bien.
Si vous mettez en scène ce spectacle, donc comment le présenter? Vous avez tout à fait raison. Tout d'abord, le présenter, ce serait plutôt dire venez donc voir ce que c'est avec des tarifs, Gérald. Tu es parfois attentif aux tarifs, des tarifs, voilà, des tarifs imbattables. Mais avant cela, peut-être pourriez-vous avoir une petite idée. Donc, alors, c'est alors, différentes technologies. Un personnage disparaît devient un système informatique.
Ah oui.
Donc, ouais, je vous en prie. Que dire sur ce spectacle?
Alors, déjà. Moi, c'est une pièce, là, vous avez lu le résumé, et ce que je trouvais intéressant, ce que je trouve intéressant dans cette pièce, c'est qu'il y a un peu plus de 4 siècles en arrière, il y a donc un gars qui a écrit un texte et qui pose la question que se pose l'humanité, se sont posées les civilisations humaines de façon cyclique et régulière dans ce long parcours qu'est celui de l'humanité, à ce que je sache, qu'est la question de l'usure. Donc c'est une question sur l'économie, sur comment une civilisation organise son économie. Et du coup, cette pièce... aborde, elle va pas aborder la question de façon très technique, mais elle aborde le sujet. Et ce qui est, ce que je trouve ça intéressant aujourd'hui qu'on se pose cette question. Je sais pas, moi, quand il y a un an et demi, quand je relis Le Marchand de Venise, je me dis, mais ouais, c'est je me sens concerné par ce qu'il raconte, parce qu'il y a cette question de l'ennemi, c'est le banquier. Du coup, on peut, mais la question est posée, c'est pas didactique. Il y a vraiment une question qui est posée sur, et qui est élargie. Donc c'est ce que je trouve beau chez Shakespeare. Shakespeare, c'est que c'est aussi et avant tout un poète, un musicien des mots et qui lui et des émotions humaines. C'est-à-dire qu'il va, alors ça peut paraître un peu gna, mais en fait, en vérité, il se pose non seulement la question de qu'est-ce que j'attends en retour quand je prête de l'argent, mais aussi qu'est-ce que j'attends en retour quand je suis ami avec quelqu'un, quand je suis en amour avec quelqu'un. Il étend ça aux relations humaines de façon générale et il pose des questions et il donc il y a une espèce de faux manichéisme dans la pièce avec des c'est pas si simple. Le banquier, oui, il est vilain, il est cruel, il est bête et en même temps il est malin au sens diabolique du terme,
le mal,
et en même temps les bons marchands, les bons machins, c'est quand même juste une bande de nantis qui vont être très durs avec lui, qui vont trop loin enfin, comment dire, c'est pas bref, je m'emballe un peu, mais tout n'est pas si blanc. En posant la question, je crois que Shakespeare sur ce truc de qu'est-ce que c'est que donner, qu'est-ce que c'est que d'aimer, au final, c'est un spectacle qui parle d'amour, mais au sens sacré du terme. Et qu'est-ce que c'est qu'aimer, qu'est-ce que c'est qu'un être humain. On est tous imparfaits, on attend tous un peu en secret, même si on veut être bon, et ben on attend tous en secret d'être récompensé par nos bonnes actions. Et c'est un spectacle qui parle de ça et qui au final explique que c'est beau l'amour.
Tout cela, vous le dites, est d'une brûlante actualité.
Non, mais ouais, oui. Non, mais je sais pas. Ouais, c'est oui.
Venise a peut-être pas été choisie au hasard, si j'en crois. Il me semble que certains économistes, sociologues, historiens ont fait quand même des pré-capitalisme. Les premières républiques comme Harlem, Amsterdam, Gênes, Venise, ce sont déjà des républiques capitalistes libérales, quoi.
Ah bah Venise, c'est la ville. En plus, c'est vraiment de ce côté-là que Shakespeare, lui, il voit Venise comme une Londres empire, voilà, en quelque sorte. La ville du marché, la ville du commerce, la ville de la centralisation économique, la ville, le pouvoir par l'argent. Et Venise, s'il n'y avait pas eu la découverte des Amériques, commençait à être vraiment un pôle très puissant en Europe, et voilà, c'était l'avenir de l'Europe. Puis bon, après, ça a décliné tout ça.
Remplacé par d'autres canaux.
Mais et du coup, c'est cette vision-là de Shakespeare, parce qu'il n'est pas allé à Venise. C'est pas le côté on joue de la mandoline et c'est super. C'est plus ce côté-là qui m'a intéressé, c'est le côté industrieux en quelque sorte, pas industriel, mais industrieux de Venise, un peu comme je raccroche. Il n'y avait pas eu la révolution industrielle, mais vous voyez, Métropolis, Brésil, ce genre de questionnement. Et du coup, moi, je bascule la pièce. Je m'intéresse pas vraiment au folklore vénitien. D'ailleurs, Shakespeare ne s'y intéresse pas du tout, à part les noms de ses personnages. D'ailleurs, vous avez un bien meilleur accent italien qu'anglais, j'ai remarqué. Antonio. Et du coup, voilà, je m'intéresse pas vraiment à ce folklore. Je trouvais que ça parlait, voilà, que Venise soit un peu la métropolis, ou voyez, dans Brésil, cette cité-état hyper puissante policière, voilà, où tout est contrôlé et tout est régi par les lois du marché. Par opposition à un autre espace, parce que la pièce se passe dans deux endroits différents. Voilà, Belmont, que j'imagine comme un petit astéroïde, parce que j'ai situé tout ça dans un univers d'anticipation pour m'amuser. Après, c'est pas du tout ostentatoire dans le spectacle, mais ça permet de se débarrasser du folklore, et puis on reste connecté avec la vision cosmique, comme ça, poétique de Shakespeare. Du coup, Venise est une cité orbitale, voilà, où c'est le marché.
Ça viendra peut-être, hein. Ils vont la désenliser avant qu'elle tombe sous les eaux, ils vont la
c'est
la
ça, oui, mais j'ai vu qu'ils installaient tout à fait.
Projet, mais bon.
Nous avons, vous avez. Enfin, vous
et,
avez...
Belmont, c'est l'opposé. C'est si Venise, c'est la tour de Babel. Belmont, c'est le jardin d'Éden. C'est la nature. C'est le paléolithique. C'est voilà, on est l'homme proche de la nature. C'est la forêt magique avec ces êtres merveilleux.
Innocents et purs.
Voilà où l'amour charnel est possible et même est la chose la plus importante à accomplir.
Il n'y a pas d'argent peut-être à Belmont alors ?
Et la règle.
Il pratique le sel déjà ?
Il y en a beaucoup de l'argent justement, puisque des sommes sont transmises à Bassanio pour aller libérer Antonio. Voilà, je prononce enfin des noms avec un très mauvais accent italien, moi, pour ma part. Mais peut-être pourrions-nous donc nous adresser davantage à Benjamin. Après ces propos que Yann a tenus, des propos d'introduction, des propos thématiques, des propos de... C'est quoi ? C'est la note d'intention, je crois, le terme que l'on donne.
C'était pas très structuré, j'essaie de rebondir.
Ah, moi j'ai trouvé ça saisissant, non, c'était très bien. On reviendra peut-être sur certaines choses. Mais là, donc, plus précisément, et puis peut-être cette idée... parler, Gérald. Tu as lu une présentation de cette pièce, certes, mais on n'a pas encore abordé vraiment, je crois, l'histoire. Peut-être pourrions-nous passer par les personnages, et c'est là que Benjamin va nous aider un peu. Personnages, j'y pense comme ça, une réflexion. Belmont serait-ce le monde un peu peut-être féminin, alors qu'à côté, Venise est masculin. Il me semble que tous les personnages, Bassanio, Antonio, tout ça, sont à Venise. Shylock également, le duc et d'autres personnages, alors que les femmes, Portia, Nerissa, Jessica ensuite viendra. Bon, Jessica viendra avec Lorenzo. Moi, je parle de la pièce originelle que j'ai pu lire. Donc, un monde plutôt féminin. Et donc, tournons-nous vers Benjamin. Qui interprétez-vous, hein? Est-ce plusieurs personnages? Est-ce que c'est vous le premier rôle, Antonio? Quoique, est-ce lui vraiment? C'est lui, ce fameux marchand de Venise. On aurait pu le dire, le marchand de Venise, c'est Antonio. Personnage qui, paradoxalement, n'apparaît pas tant que ça dans la pièce. C'est plutôt Bassanio qui est un peu plus important. Donc, qui êtes-vous, Benjamin? Alors oui, Benjamin Villemin, vous êtes présenté tout à l'heure, mais
moi,
sinon, vous incarnez...
Je joue deux rôles dans cette pièce, parce que la particularité de la mise en scène de Yann, c'est... Il y avait tout un tas de personnages justement dans cette pièce, un grand nombre, je crois autoir d'une vingtaine ou une quinzaine, un truc comme ça. Voilà, avec beaucoup de messagers et tout ça. Nous, on est cinq comédiens en tout, et donc moi j'interprète le vieux Shylock et j'interprète aussi Lorenzo, donc qui va ravir Jessica à son père qui est Shylock.
Donc là, voilà. Là, on est perdu.
Déjà.
Non, oui, mais c'est exactement ça. Non, mais dès qu'on dit le père de la fille, de machin, mais c'est ça. Tu joues à la fois l'amant et le père de Jessica.
Voilà. C'est très bien. Et alors, Shylock, un rôle important. Et est-ce qu'on l'évoque peut-être cette dimension, un personnage qui, dans la pièce, est bien présenté comme étant non pas un banquier, mais dans la pièce de Shakespeare, il est bien présenté comme étant un juif, avec une belle tirade qui a inspiré.
Il n'est pas présenté comme étant non pas un banquier. Il est présenté comme étant un banquier. Et un banquier juif, parce qu'à l'époque, les usuriers juifs de Venise.
Mais justement, une belle tirade est mise dans la bouche de Shylock, d'ailleurs. Est-elle conservée ou est-ce que vous avez coupé le passage sur les juifs, hein,
elle est conservée.
Elle est conservée, mais c'est changé alors.
Du coup, Yann a préféré, dans la place du mot juif, on dise le mot de banquier.
Mais alors, ça peut être drôle pour le coup. Est-ce qu'un banquier ne souffre pas comme vous?
Exactement ça. En fait, mon idée, c'était tout simplement. En fait, il y a plein de thèses et de visions différentes sur cette pièce, et chaque vision est pertinente et intéressante.
Laquelle est la vôtre,
hein? Laquelle est la mienne? La mienne, c'est que ce qui m'intéressait, moi, dans ce texte, c'était cette opposition c'est toujours intéressant qu'il y ait une étiquette religieuse ou pas, c'est pas la question, c'est cette opposition de gens qui se disent plus malins et ayant une meilleure morale que l'autre. Il y en a un qui va dire, mais on peut très bien, si je t'emprunte, enfin sur cette question de l'usure, moi je peux très bien prêter de l'argent et rien demander en retour, je me sens plus noble que toi qui as envie de gagner ta vie en faisant ça, en faisant ton métier, et l'opposition entre banquier et marchand, ça me parle plus à moi qu'une opposition entre juif et chrétien, parce que c'est moi, je m'en tape. Et les étiquettes religieuses, en plus, me semblaient polluées, parasitées. En fait, la question philosophique et la question philosophique. En plus, je rappelle quand même que Shakespeare, au moment où il écrit la pièce, donc en 1596-97, il n'y avait pas de juifs en Angleterre, que l'icône du méchant juif, c'était un peu, je sais pas, c'est comme dans les films de James Bond, le méchant russe, vous voyez? Et du coup, voilà, c'est ce genre de fantasme, le méchant, où en fait, pour moi, Shakespeare, ce qu'il fait avec l'icône du méchant juif, qu'il ne connaît pas, mais dont il connaît l'image, il ne connaît pas de juif à proprement parler, lui il voit le bonhomme, l'espèce d'ogre avec les grandes oreilles, les doigts crochus, etc. Vraiment, il est dans cette vision-là, parce que ce sont les histoires qu'on lui raconte à cette époque-là. Mais il fait de cette icône justement un peu, je ne sais pas, vous voyez dans le film South Park, comment est utilisé le personnage de Saddam Hussein, qui est à la fois extrêmement ultra diabolisé, et en même temps, en l'ultra diabolisant, on raconte que l'Amérique ultra diabolise certains personnages. Et du coup, une question est posée, qui est celle de pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une icône de méchant aujourd'hui? Pourquoi, enfin, tout le temps on en a besoin, mais voilà, c'est juste poser ça comme quelque chose qui existe. Et du coup, j'aurais pu proposer un travail sur cette question d'opposition entre les étiquettes religieuses, mais il se trouve que moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà.
Et donc, Benjamin, c'est vous qui avez cette tirade. J'ai dit qu'elle était comique, mais en fait, je me reprends. C'est peut-être, je reviens au propos que vous teniez tout à l'heure, Yann, sur cette histoire de manichéisme, mais justement un peu dénonciation. À la fois, les banquiers seraient les méchants et les marchands seraient les gentils, mais ces gentils qui sont plutôt des nantis ne sont pas toujours très corrects. Donc, cette réplique que vous avez, vous, Benjamin, est-elle destinée à être un peu donc finalement drôle, ou justement, on peut pas du tout, plutôt une autre dimension ou...
Non, moi, je pense pas que c'est une réplique qui soit destiné à être drôle. En tout cas, nous, on l'a pas traité de cette manière-là. Au contraire, c'est vraiment un moment où le banquier a, par les mots de Shakespeare, le moyen de s'exprimer et d'exprimer la haine qu'il ressent, qu'on lui inflige, et ce racisme du fait qu'il est banquier. Et donc, lui, être banquier et prêté à usure alors qu'on habite Venise à son époque, dans le contexte de la pièce, lui, il ressent ça comme un racisme profond, et il dit, mais moi, je mange comme vous, je bois comme vous, si on me chatouille, je ris, si on me pique, je saigne, alors pourquoi est-ce que vous m'en voulez tant d'être un banquier? En fait, il pose vraiment cette question, et il dit aux autres, mais pourquoi vous êtes raciste? En fait, c'est ça.
Alors, après, il y a ce truc très touchant dans ce texte d'un homme blessé aussi qui perd sa fille et qui prend la décision de se venger. Du coup, il y a à la fois ce côté très touchant, comme tu l'as dit, Benjamin, c'est vraiment ça. Enfin, ce côté je subis le racisme. Ils sont racistes. Tous les personnages de la pièce sont racistes, tous. Et en même temps, il explique pourquoi il va se venger. Enfin, il explique pas pourquoi, il dit qu'il va se venger à ce moment-là. Du coup.
Faudrait peut-être en profiter pour rappeler que le mot ghetto est un mot italien et qui vient du ghetto juif de Venise.
Ouais, tout à fait.
Très beau quartier d'ailleurs.
Benjamin, peut-être, enfin, comparaison entre ces deux rôles que vous jouez, Shylock et puis Lorenzo, je ne sais pas, c'est la question peut-être bébête, avec lequel vous sentez-vous le plus d'affinité, ou lequel a moins de texte, enfin, je ne sais pas, qui question de scolaire peut-être, si le spectacle a été donné devant des élèves,
mais c'est une question intéressante. Après, c'est toujours, on va dire, difficile dans le travail d'aborder deux personnages dans la même pièce, surtout qu'on a des changements très rapides, je vais avoir quelques secondes pour me changer un personnage. Ces deux personnages tellement opposés, et dans leur corps, et dans leur mentalité,
ennemis,
et dans leur manière d'être, que du coup, je dirais pas que c'est facile, c'est du travail, mais ils sont très opposés. Donc ça permet d'avoir deux silhouettes très différentes. Le vieux Shylock, nous, on l'a vu sur un fauteuil roulant, on l'a imaginé sur un fauteuil roulant, donc c'est un infirme. Alors vous verrez dans la pièce que c'est pas aussi simple que ça si vous venez voir. Et puis le jeune Lorenzo, c'est un jeune fougueux, amoureux, qui est un peu à l'arrache, un espèce de jeune comme ça qui profite. C'est un profiteur comme ça. Donc c'est deux figures très différentes. Moi, j'adore jouer Shylock parce que là, il y a plus de matière à défendre. Lorenzo, dans l'adaptation qu'a fait Yann, il a un rôle bien moins important que celui de Shylock, qui est Shylock un des personnages principaux de cette pièce. Lorenzo, c'est un personnage secondaire. Il est très intéressant à défendre, mais moi, honnêtement, j'adore jouer ce vieux banquier acariâtre, méchant, et voilà, comme moi, j'adore jouer ça.
Ça passe par, vous parliez de silhouette, donc pour le personnage de Shylock, vous êtes sur un fauteuil roulant, mais y a-t-il également des effets de gestes ou la voix? Est-ce que vous tentez de changer un peu votre voix, ou non, ça reste, ou parler un peu plus fort ou moins, ou des grimaces, c'est ça Yann? Non, vous grimacez, ou c'est autre chose?
Non, disons qu'on n'est pas dans une conception du jeu théâtral qui est de penser un personnage par un grain de voix d'abord. Non, du coup, c'est plus un état d'esprit, et vous parlez de silhouette, c'est très juste. Enfin, Benjamin parlait de des dispositifs qu'on a imaginés, mais tout simplement, Shylock, c'est un homme âgé, du coup c'est quelqu'un qui va être tassé, mais c'est parce que le comédien excellentissime qui est Benjamin Villemagne incarne le personnage, et du coup est dans les enjeux du personnage, dans les questionnements de ce personnage, il est aussi dans le corps du personnage, bien sûr, et ça a un impact sur sa voix et sur sa manière de bouger.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça, c'est sûr, mais c'est d'abord le personnage, et ensuite, on s'est pas dit, il faut que Lorenzo, il ait l'accent italien, et Shylock l'accent pied noir, quoi, par exemple. On s'est pas dit ça.
Et les actrices de cette pièce, elles se partagent les rôles de Portia et Jessica. Puis alors, Nerissa, pourriez-vous peut-être, je vois que le temps tourne un peu, peut-être pourrions-nous encore tenir quelques propos et puis ensuite faire à nouveau une pause musicale. Hein, Gérald, on va écouter les concertos, ben, les données, magnifique, c'est pour ça que je parle.
Transition avec les actrices.
Avec les femmes. Il y en a combien? Donc il y a Charlotte.
Je peux parler de tous les acteurs.
Tout le monde.
Charlotte Michelin qui interprète. Il se passe quelque chose.
Non,
tout va bien. Ouais. Charlotte Michelin qui interprète le rôle de Portia, qui est la princesse de Belmont et qui est un peu l'enjeu pour le jeune Vénitien qui emprunte de l'argent. C'est l'enjeu. Il a envie de se marier avec elle et pour pouvoir se marier avec elle, il doit jouer une espèce de jeu, une loterie de coffres. Il doit choisir le bon coffre et celui qui choisit le bon coffre pourra se marier avec elle. Donc elle est Charlotte Michelin. Voilà.
Oui, forcément d'accord.
Voilà, c'est un peu. Il faut venir voir le spectacle. On peut en parler après. Exactement ça. Elle interprète également le rôle de Balthazar, le docteur de la justice. Caroline Demourgue, charmante comédienne aussi, qui interprète plusieurs personnages. Elle en interprète quatre. Il y a donc Nerissa, qui dans le spectacle, vous l'abordiez tout à l'heure, n'est pas matérialisée par le corps, mais uniquement par sa voix. Je vous en dis pas plus. Elle interprète également.
C'est comme le film sorti la semaine dernière, je crois, de Spike Jonze.
Exactement, Spike Jonze, c'est sans doute inspiré du Marchand de Venise. Oui. Et d'ailleurs, il est venu. il est revenu le voir parce qu'il l'avait déjà vu. Il avait assisté à deux, trois répètes avant qu'il réalise son film.
Je vois qu'il y a une adaptation réalisée tout au long de la saison 2012-13, ponctuée par de nombreuses lectures. Ça, c'est le travail qui est indiqué sur.
Voilà, mais j'ai pas noté Spike Jonze sur le dossier, mais ouais, effectivement.
Donc, Nerissa est une voix.
Nerissa est une voix. Hein?
Rigoler, mais à propos de cinéma, Le Marchand de Venise a été adapté au cinéma américain.
Oui, bien sûr.
C'est pas un très bon film, si.
Moi, je suis pas d'accord avec le parti pris du film. Je pense, vous voyez, c'est Al Pacino qui joue le banquier juif, et du coup, c'est un film qui joue la carte de. Ayons de l'empathie parce que les Américains bloquent parce que le personnage est un juif et du coup pour moi c'est pour ça que j'ai enlevé les étiquettes parce qu'on tombe dans le panneau et du coup c'est vrai que depuis les années 50 il y a plein de trucs qui vont dire soit la pièce elle est antisémite soit au contraire c'est un drame bouleversant à quel point Shakespeare était en empathie avec la communauté juive. En fait c'est vraiment pas la question de la pièce selon moi, donc mais là eux ils sont dans ce truc là où Al Pacino incarne un Shylock qui est une victime tout au long de l'histoire, alors que je pense que Louis de Funès aurait été un meilleur choix pour jouer le banquier de Venise.
Nerissa, on vous a interrompu.
Nerissa, du coup, j'étais en train de parler de Caroline Demour qui interprète quatre personnages. Donc Nerissa qui est une voix, Jessica qui est la fille du banquier qui s'enfuit
qui
avec son amant,
par Lorenzo,
qui est ravie, mais c'est elle qui organise tout. Hein.
Oui. Ensuite, elle est très ravie d'être ravie.
Elle interprète également l'acolyte, le sous-fifre. De Shylock qui s'appelle Tubal, qui est un personnage de clown qui est un peu le sous-fifre, hein, il n'y a vraiment pas d'autre mot de Shylock. La duchesse, donc c'est le rôle du doge ou du duc de Venise, donc c'est elle qui incarne la justice également. Voilà.
Elles ont du rôle masculin.
La duchesse, enfin Tubal,
a été féminisé.
Tubal est un personnage,
asexué.
Tubal est un personnage sans genre particulier. Il est par contre interprété par une femme. La duchesse, est un personnage de femme. Dans l'histoire que je raconte, c'est une femme qui est la maîtresse de la justice à Venise. Jessica, c'est une femme, et Nerissa, c'est une femme. Voilà, c'est l'ami de. C'est un spectacle où les femmes. C'est aussi intéressant pour ces questionnements-là. Comment Shakespeare donne vraiment la part belle, et c'est assez rare dans des pièces de. Il y a 4 siècles en arrière, trouver des pièces où ce sont les femmes qui prennent en main le destin des hommes et qui résolvent toute l'histoire et elles ne sont pas passives, elles sont actives. Je vous disais que Portia, mais c'est pas un secret, il suffit de lire la pièce que Charlotte Michelin interprétait Portia et Balthazar, le docteur en justice,
ça,
qui vient sauver Antonio.
C'est elle
qui décide de se déguiser en homme de loi dans la pièce. Donc dans la pièce, elle se travestit déjà. C'est elle qui fait le choix. Et elle le fait avec un brio incroyable. Elle résout tous les problèmes de cette histoire. Voilà. Et du coup, ça c'est important de signaler. Et je vais tout à fait, bien sûr, parce que là, on parle de tous les interprètes du spectacle. J'ai parlé de Benjamin Villemagne. Enfin, Benjamin Villemagne a aussi parlé de lui-même. On a parlé de deux comédiennes, mais il y a aussi un autre excellent comédien qui travaille avec nous, qui est Vincent Arnaud, qui interprète justement plusieurs personnages aussi dans le spectacle, notamment le marchand de Venise. Le prince de Maroc et le prince d'Aragon, qui sont les deux prétendants qui viennent avant Bassanio, que j'interprète moi-même, soit dit en passant, qui viennent tenter leur chance pour les coffres, mais qui voilà, ça marche pas trop pour eux, je crois.
Qui quitte vite la pièce.
Ça se passe mal. Les femmes, on fait la part, belle aux femmes. Oui, Gérald.
Bah, c'est les femmes.
La part belle aux femmes.
C'est les femmes, oui.
On pourrait écouter donc un concert qui a été donné il y a des années au Musée des Tissus. J'avais acheté le CD, c'était magnifique. Le Concerto delle Donne, le Concerto des Femmes. Musique italienne du XVIIe siècle de compositeurs féminins qui sont par l'ensemble la Primavera, Clémence Comte, Johannette Zomer, Robert Expert. Donc elle s'appelle Prioli, ça dure pas longtemps, ça dure 2 minutes, et ça s'appelle Balletto Secondo, 2 minutes. Elle est née peut-être en 1665, ou morte, ou née à Venise, voilà. Et elle passe pour être la première, on ne possède hélas pratiquement aucune information sur elle. On sait seulement que Prioli put faire éditer ses Balletti et Correnti a due violini violone aggiunta la Spinetta en 1665. Il semble que ce fut le premier recueil de musique instrumentale connu dont l'auteur fut une femme.
Touche à sa fin. Nous avons écouté une musique italienne pour bien rester à Venise. Mais spectaculaire n'est pas encore terminé. Gérald, c'est effectivement Prioli. Je t'en prie, encore quelques mots pour titiller. Viens-tu
pour
de
finir,
dire
on aurait pu encore consulter leur dossier de presse qui est très très bien fait, que j'invite les auditeurs à aller consulter.
Le monstrueux théâtre BAM qui met en scène au théâtre l'Elysée. J'ai l'adresse sous les yeux, 14 rue Basse-Combalot dans le 7e arrondissement à Lyon, quartier de la Guillotière. Le marchand de Venise qui est donc mis en scène jusqu'à ce samedi. Yann Ducruet, metteur en scène, est avec nous. Benjamin Villemagne aussi. Et Gérald, le dossier de presse signale une note d'intention, d'intention.
Donc démarche d'intention, je vous lis quelques lignes. Submergé d'informations contradictoires, d'opinions et autres vérités légendaires, il devient compliqué de dégager du brouhaha masse médiatique quelques formes de conviction qui ne nous fassent pas basculer dans la paranoïa apocalyptique. Aujourd'hui, le cynisme est devenu monnaie courante dans l'art et la politique. Il m'est avis qu'un regard intelligent et fataliste ne suffise pas ou plus à éveiller nos consciences, surtout si ce regard tend à être généralisé. Nous sommes dans un monde où le cynisme est devenu une complaisance, il est nécessaire de surpasser cette complaisance pour se proposer des alternatives, car nous ne sommes pas qu'un regard sur ce monde immense, nous en sommes aussi une infime partie. Je veux concevoir la représentation théâtrale en particulier et la création artistique en général comme un humble processus du monde et non comme une posture détachée de ce monde.
Ce sont des propos de Yann Ducruet qui est avec nous.
Ici présent.
Réaction, c'est ça?
Réaction.
Ouais, c'est vrai que ça fait un peu pompeux.
Non,
sur un dossier, forcément, j'adopte un style plus ou moins empoulé pour faire le malin.
Nullement, pas du tout.
Pour redire avec d'autres, je sais pas, vous vouliez peut-être poser une question.
Il y a une dimension très moralisatrice là-dedans, mais qui est intéressante, qui est un peu décalée par rapport justement au cynisme actuel, et que cette position-là m'intéresse parce qu'elle est à la fois artistique, politique, éthique, et comme tout art est politique et que toute politique est artistique, c'est un débat très intéressant.
Bah oui, alors en fait, c'est exact. En fait, c'est plutôt, je sais pas, c'est moralisateur. C'est juste, moi, c'est mon point de vue, quoi. J'ai le droit d'avoir une morale, d'avoir des valeurs. Et par contre, je ne me sens pas du tout la capacité ni le droit d'imposer ces valeurs à quelqu'un d'autre. Je peux en parler, je peux les défendre, je peux les présenter, mais je vais pas les imposer. Si je les imposais ou si je n'acceptais pas dans mon système de réflexion qu'il puisse y avoir d'autres systèmes de valeurs, je serais moralisateur. C'est absolument pas le cas. Et la phrase que vous avez parlé, c'est tout simplement un constat que j'ai fait moi sur mon travail et puis sur des choses que je voyais, qui est alors j'appelle ça le cynisme, mais je me suis rendu compte que voilà, c'était facile au bout d'un. Enfin, c'est juste un jugement sur moi-même que j'ai porté. Je dis, c'est facile de faire de l'humour et de se moquer du monde dans lequel je vis, de dire, c'est facile de faire le constat intelligent que tout va mal, et de faire preuve de dérision. Mais en même temps, ça mène à rien si ce n'est se dire que ce monde c'est de la merde, etc. Et de finir par vivre, oui, comme un chien dans un tonneau, parce que voilà. Et du coup, se détacher du monde et un spectacle. C'est une rencontre, c'est rencontrer du monde, c'est rencontrer des gens, c'est accepter, enfin c'est valable pour n'importe qui, enfin tous les, c'est un boulot que, enfin on fait tous partie de ce monde, et plutôt que pas, on peut faire le constat que les choses vont pas bien, mais du coup pour moi j'ai décidé que sur un spectacle j'avais envie de sortir de mon cynisme et que j'avais, s'il y avait quelque chose que je pouvais, enfin voilà, où on prend du plaisir à donner et à recevoir, et c'est un moment où les, faut que les gens se sentent bien, un spectateur doit se sentir bien, et j'ai envie, si je transmets un truc, moi c'est juste mon envie à moi de plus être dans le cynisme, d'oser être parfois utopiste, d'oser aussi accepter que je suis rien du tout, je suis qu'un petit bout, mais je fais partie du monde, du coup je peux pas passer mon temps juste à avoir un regard sur le monde, en plus c'est faux parce que j'en fais partie, et du coup tout ce que j'ai à faire c'est voilà, c'est une morale, c'est une valeur,
on peut transformer le monde.
Voilà, on est des petites fourmis sur une grande plaque de béton. Bon, bref, c'est un peu bateau, peut-être ramené comme ça. Mais le cynisme est plus facile, est une voie plus facile